Passionnément Vôtre. Passionnément Vôtre, l'émission 100% passion avec Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue sur Radio Présence Figeac 97.7. Comme chaque semaine, nous avons l'émission Passionnément Vôtre et chaque semaine, nous avons quelqu'un de passionné que j'ai en face de moi. C'est Laetitia Le Sieur. Laetitia, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à toi d'être venue parmi nous. On t'a invité parce que tu es une passionnée de chevaux.
Oui.
Donc on va en parler longuement parce que mais j'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à dire, donc c'est impeccable. Mais dis-nous par contre, avant, ton enfance, ton parcours scolaire, et est-ce que tu as déjà été amoureuse des chevaux ou des animaux en général, des gamines, voilà, dis-nous tout.
Alors moi je suis originaire du Lot, donc un petit coin à côté de Gramma. Donc, j'avais mes grands-parents vers le Bastille, donc sur le Causse. Et j'ai vécu là-bas avec mes parents pendant pas mal de temps. Donc, on avait pas mal de. Enfin, mes grands-parents étaient en agriculture. Enfin, en tout cas, ils étaient agriculteurs à côté de Paris, mais ils étaient redescendus pour la retraite dans le Lot. Okay. Et mes parents, eux, mon père était dessinateur industriel et ma mère faisait des petits boulots et s'occupait des trois enfants.
C'est déjà du boulot.
Donc, oui, elle avait déjà pas mal de travail. Et puis moi j'ai toujours été élevée plutôt dehors, donc on avait quand même une grande maison, de la place, on aidait à faire le bois le week-end avec le grand-père, lui il adorait se balader dans la nature, visiter des lieux, observer la nature autour de lui, du coup je crois qu'il nous a transmis quand même quelques petites choses et assez rapidement ouais, le cheval il est venu m'interpeller, je sais pas pour quelle raison mais en tout cas... Je l'ai vu assez vite, et assez vite, il est devenu un peu l'effigie normale de ma chambre, qui était à peu près recouverte du sol au plafond de poney. Oui. Et à tel point que, quand je devais avoir à peu près 10-12 ans, mon papa se moquait de moi en disant que je voulais faire cheval dans la vie. Ah, mais il ne s'était pas tout à fait trompé. Hein.
Et du coup, est-ce qu'après, donc ça c'était ton enfance, et est-ce que tu as orienté ton parcours professionnel directement dans les animaux ?
Alors, il faut savoir qu'à cette époque, c'était il n'y a pas si longtemps, avec des grands-parents qui avaient été agriculteurs, on ne t'encourage pas à bosser en agriculture ou à faire un métier là-dedans. On te dit non, mais va gagner ta vie, comme ça tu pourras avoir un cheval. Donc moi, j'ai été bien sage, j'ai bien écouté au début. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire de la pub, et non. Je vais essayer de faire de l'art, et en fait, non. Et après un BTS, je me suis réorientée. J'ai fait un BTS AXE, donc analyse et conduite de système d'exploitation agricole. Un gros mot pour dire que tu vas devoir gérer des fermes. Et par la suite, j'ai repris un BPGEPS tourisme équestre. Donc c'était l'équivalent de l'ATE, donc de l'accompagnateur de tourisme équestre, qui permet d'emmener des gens en balade.
D'accord.
Donc de leur faire découvrir la nature à travers les chevaux.
Ok.
Voilà.
Donc voilà, donc tu étais quand même orientée pour ça. Quoi.
Oui, mais assez tard finalement. Et
oui,
sachant que
voulais...
j'étais pas cavalière, en fait j'ai très peu monté quand j'étais jeune, on n'avait pas beaucoup de sous, donc j'ai dû faire 2-3 années d'équitation, donc j'avais un pauvre galop 2. Et arrivé à 19 ans, après une petite errance justement, j'avais fait donc le bac général d'abord, puis une année de fac où là je me suis dit mais non, mais en fait je suis incapable de rester posée comme ça à attendre 5 ans avant de faire quelque chose de mes mains, donc c'est là où j'ai commencé à me réorienter vers les chevaux, donc avec le BTS puis le BPGEPS. Et pendant ce temps là ouais, je me suis vraiment réorientée vers ces animaux et j'ai envoyé des lettres de motivation partout et j'ai trouvé d'abord un boulot de palefrenière pour pouvoir travailler dans un endroit où je pourrais monter à cheval tout mon sou. Et en 3 ans, dans un centre équestre qui s'appelait L'Étrier du Lauragais à Castelnaudary, ils m'ont accueilli. J'ai fait palefrenière 2 ans, et la troisième année, j'ai fait mon année de BP pour être formée. Donc j'ai passé mes 7 galops en quasiment 3 ans seulement.
7 galops, ça permet après de faire des compétitions ?
C'est pas pour les compétitions, non. Pour le coup, là, c'est pour pouvoir être admissible au test d'entrée pour le monitorat.
Parce que justement, donc on en parlait à off, quand je te disais qu'est-ce que tu faisais exactement comme métier, tu me disais palefrenier, mais qu'il y avait surtout, tu faisais en fait différents métiers pour la même chose.
J'ai commencé à être palefrenière et puis après j'ai appris plein d'autres choses. Donc d'abord l'accompagnement de tourisme équestre qui m'a beaucoup plu. Après, on va dire qu'au fur et à mesure de mes rencontres avec les chevaux, j'ai trouvé aussi des limites. Et je trouvais ça génial d'amener des gens sur des chevaux, mais je trouvais ça un peu court de passer juste 20 minutes à leur expliquer que c'était un cheval et de les mettre dessus et qu'ils croient que ça y est, ils pouvaient diriger un cheval. Souvent, il y a une frustration qui se crée entre la première balade où là, ils font tout d'un coup, c'est génial, et la deuxième où ils se rendent compte que ce qu'ils proposent n'est pas toujours parfait. Que « Oh, mais ils ne m'écoutent pas, oh, ce cheval est nul ». Ah non, non, il n'est pas nul, t'as pas appris à communiquer avec lui, je t'ai juste donné les codes pour que ça se passe bien. J'ai le reste, t'es un peu, tu travailles un peu tes chevaux en hypnose pour que derrière ça suive.
Et du coup, donc t'as du contact avec des personnes qui veulent, qui sont aussi amoureux des chevaux.
Oui, tu, voilà.
Et
des milliers.
Du coup, t'as une ferme équestre,
Alors là, je suis en train de me réinstaller pour la deuxième fois de ma vie, de manière différente. Je suis en train d'essayer de faire une mini-ferme avec un tout petit peu d'élevage et essayer de faire beaucoup de rencontres avec les chevaux, mais en prenant le temps. Du coup, c'est ça. J'ai continué après mon expérience de monitrice de tourisme équestre. J'ai fait beaucoup de travail du cheval, donc dans plein de disciplines différentes, un peu en endurance, un peu, donc, on va dire, une carrière un peu plus sportive. Après, je suis repassée plutôt à du travail agricole. J'ai découvert le travail de la vigne. Puis, je suis partie en roulotte avec mon cheval. Mmh. Donc, ça a été une bonne partie de ma formation interne, d'essayer de découvrir comment on fait de l'attelage, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à ça. Et ensuite, j'ai décidé aussi d'apprendre vraiment aux gens que le cheval, en fait, était un prof, et qu'au lieu de l'utiliser comme on le faisait, c'était intéressant de montrer qu'il y a des interactions qui se créent entre eux et nous, qu'eux, ils viennent appuyer à des points comme apprendre à prendre le temps, apprendre à savoir dans quel état on est, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, à s'adapter à ce qui se passe en face, au lieu de « ce cheval est fou ». Non, il n'est pas fou, regarde. « Ah, il y avait du vent, moi, intérieurement, je ne suis pas très bien ». Eh bien oui, la situation est plus compliquée.
Tu leur apprends en fait à comprendre les chevaux.
À comprendre les chevaux et à se comprendre eux-mêmes. Parce que les chevaux ont cette faculté assez étrange d'essayer de soigner les humains.
Voilà, donc c'est bien, ton approche est différente, oui, comme tu dis, c'est pas, allez, tu veux faire du cheval, je te mets sur la selle et tu fais une balade 10 minutes et on n'en parle plus. Donc toi, c'est pas ça qui t'intéresse en fait.
Non, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de limites par rapport à ce qu'on leur donnait, par rapport à notre société, notre mode de vie, et que du coup, eux, ils étaient un bon lien pour revenir un peu en arrière et se reposer des questions. Et je trouve que c'est intéressant pour tout le monde et je trouve ça vraiment génial, donc je me suis un peu plus basée là-dessus. Et à les soigner, apprendre à s'en occuper correctement, à essayer de leur faire vivre une vie un peu plus sympa, dans la mesure où on est dans une société où, on va dire, on profite un peu plus que fut une époque. C'est plus forcément un outil de travail, c'est plus un outil. Donc dans la mesure où ça devient notre compagnon et qu'en plus on est là plutôt pour du loisir, autant s'occuper d'eux correctement du début à la fin.
Alors justement, on parlait toujours en off de compagnon. Tu as un compagnon qui s'appelle donc Tucson,
oui.
Prononce bien. C'était un Irlandais.
Oui.
On a parlé, on a rigolé. Mais donc, dis-nous la race, c'est vraiment un cheval.
C'est un Irish Cob qui fait 600 kilos, donc pour 1m51.
Ah, c'est petit, pardon. C'est petit.
C'est pas très grand en taille, mais on est sur un modèle, on va dire, un tout petit peu plus grand que le Mérins en général. Et c'est un cheval de travail qui était très adaptable et qui a été sélectionné par les Irlandais à l'époque, et surtout les Tinkers, donc les voyageurs irlandais. Et pour la petite histoire, c'est des chevaux, au départ, il y avait le cheval de travail des fermes, et à chaque fois qu'ils sortaient bariolés, les agriculteurs ne les aimaient pas, ils les vendaient aux gitans. Et ça a fait le cheval de couleur que tout le monde s'arrache à prix d'or maintenant, parce qu'ils sont beaux, avec beaucoup de poils.
Mais moi aussi, j'ai mon assistant qui a beaucoup de poils. non, mais du coup, c'est pourquoi cette race-là, c'est un coup de cœur? Parce que tu aurais pu avoir, je sais pas,
disons que déjà, c'est un peu un cheval de Barbie, ça faisait plaisir. La deuxième chose, à l'époque, j'habitais dans une ferme, donc je voulais pas avoir un cheval qu'on me dit qui sert à rien. Donc un cheval de selle pour se la péter, c'était pas mon truc. Je voulais pouvoir faire tout avec lui, enfin en tout cas tout ce qu'il serait d'accord de faire. Et la troisième raison, c'est que j'étais voyageuse à l'époque beaucoup. J'ai vécu en camion pendant pas mal de temps. Mmh. Et du coup, voilà, le voyage, la roulotte, c'était un peu mon imaginaire de ce que pourrait être ma vie parfaite. Donc, je suis allée vers lui et je l'ai rencontré.
Et il a quel âge, justement, tout ça ?
Il a maintenant 20 ans et on a quasiment 18 ans de vie commune. C'est ma plus longue relation. Mmh. Peut-être à cause des clôtures électriques, on ne sait pas.
Oui, j'imagine. Mais j'ai pas la notion, ouais, combien de temps ça peut vivre, je sais pas.
Alors, 20 ans, on va dire que c'est quand ils avaient des mauvaises conditions de vie, donc des conditions de vie moins adaptées, des box, ce genre de choses. Normalement, en vie naturelle, ça peut vivre à peu près 30 ans, 32 ans.
Ah oui, quand même.
Et il n'y a pas si longtemps, le cheval moyen vivait jusqu'à 20 ans. Là, on revient un peu plus vers du 27, 32. Normalement, c'était plutôt les poneys et les ânes qui vivaient sur cet âge-là. Mais en fait, un âne, normalement, peut vivre jusqu'à 35...
Et à Pas Tucson, il y a d'autres animaux qui vivent auprès de toi ?
Maintenant, il y a, l'année dernière, j'ai Olympe qui m'a rejoint, qui est une croisée comtoise. Et également Olaya, qui est une petite jument de trait que j'ai sauvée, qui était un peu tordue, biscornue. Et voilà, je l'ai amenée à nous rejoindre.
Mais j'ai l'impression, puisque tu sélectionnes pas le cheval, tu sélectionnes, j'ai l'impression, un coup de cœur. Parce que la manière que tu en parles, on sent que c'est plus que des chevaux. Quoi.
Alors, c'est souvent... le premier, c'était parce que je voyais que les gens n'allaient pas s'en sortir. Il a tapé le gars devant moi. J'ai dit, vaut mieux que ce soit moi qui le récupère qu'un autre. Il va finir à la boucherie. La deuxième, pour le coup, Olympe, ça a été un coup de cœur. Mais j'avais deux coups de cœur en même temps. Et il s'avère que c'est la propriétaire de la jument qui m'a rappelé 3 mois après en me disant « Bon, ben, finalement, j'ai changé d'avis, je vends quand même la pouliche. Est-ce que tu la veux ?» Je me suis dit « Mince, c'est une pouliche qui m'appelle elle-même, il faut quand même que j'aille la voir. » Mais on venait de me proposer un cheval quasiment gratuit, donc j'ai fortement hésité. J'essayais de ne pas la regarder et de me dire « Non, je ne la prends pas » et je l'ai vue et trop tard. Coup de foudre.
Eh bien, écoute, on va en parler un peu plus après la pause musicale. Oui. Puis surtout, je veux que tu nous dises la journée d'une palefrenière, je ne sais pas si on dit ça au féminin.
Alors, palefrenière, c'est surtout c'est quand tu t'occupes des box et que tu bosses pour les autres. Moi, on va dire que je vis avec eux.
Voilà, et bien écoute, tu me parleras de ta vie dans la deuxième partie. Et on se retrouve pour Passionnément Votre après la pause musicale. Merci.
Plaisance à Figeac 97.7.
Voilà, la pause musicale est finie. On est toujours avec Laetitia Le Sieur qui nous parle avec passion de son amour des chevaux. Et on va continuer à en parler. Donc, on a parlé de pas mal de choses dans la première partie. Là, je veux vraiment savoir comment ça se passe la journée de tes journées. Parce que tu m'as dit 3 chevaux tout à l'heure.
3 chevaux à la maison.
3 chevaux. Donc, c'est quand même, j'imagine, beaucoup de boulot. Et je voudrais aussi qu'on parle, parce que tu m'en as parlé encore une fois hors off, c'est que tu es artiste équestre et conteuse. Donc c'est vraiment un panel assez varié.
Oui. Alors, d'abord, pour répondre à ta première question, dans ce qui est de mon organisation de journée, alors dans une journée, on va dire optimum, si tout se passe bien, d'abord je me réveille, je bois un café. Et j'avoue qu'après, je vais voir mes chevaux pour vérifier que tout va bien ou donner du grain. Sachant que pour moi, le grain, c'est pas tellement quelque chose d'important pour eux. Parce que dans la nature, ils mangent essentiellement de l'herbe, des branches, des feuillages, un petit peu de terre pour avoir des oligo-éléments. Mais ils n'ont jamais eu besoin de céréales. Ça, c'est l'homme qui a eu besoin, qui mange moins. Donc on leur a donné des céréales pour concentrer l'énergie, pour que... Ah, pardon. Un cheval, ça mange plus de 18 heures par jour.
Ah, comme marrant.
Donc forcément, quand on les faisait bosser pendant 8 heures, ils ne pouvaient plus manger assez pour pouvoir... Donc on a introduit la céréale. Donc moi, j'ai envie de revenir en arrière. Donc quand je leur donne de la céréale, c'est pour pouvoir donner les compléments qui vont avec. Donc c'est-à-dire que c'est pour pouvoir ou redonner des minéraux ou rajouter une plante qui va les soigner. Et après, en deuxième partie, donc quand j'ai fini de coacher tout le monde, de regarder que tout va bien, ça peut être une partie clôture, par exemple, ou une partie mise en place de l'installation, parce que là, je viens de récupérer du coup 7 hectares en location. Donc il faut de temps en temps reclôturer. Et je viens d'acheter pour la première fois de ma vie un endroit à moi. Donc j'ai 2 hectares 30 qui vont être signés dans 2 semaines. Et il y a tout à faire dessus. C'est une friche. Et à moi d'essayer d'installer... J'aimerais faire un petit cocon très naturel pour accueillir des gens dans un contexte naturel avec quelques chevaux. J'ai pas envie d'avoir 10 chevaux, j'aimerais rester à 3, peut-être 4. Et quelques autres animaux, des adjoints pour m'aider. Par exemple, des poules pour aller écraser le crottin et l'étaler pour que les vers puissent pas subsister. Donc elles vont faire le job et elles me fourniront quelques œufs, c'est pas mal. J'aimerais aussi diversifier, on va dire, le type d'animaux qu'il y aurait sur mes parcelles. Quelques chèvres pour manger vraiment le surplus qu'il y a à côté. Diversifier un petit peu les endroits. Et puis l'après-midi, ça peut être ou une activité de se balader ou de les travailler. J'en ai une qui est au débourrage, donc j'ai des sessions de travail à organiser. J'ai une jument qui, elle, a été traumatisée, donc il faut que j'arrive à faire des petites sessions de travail pour lui redonner confiance en l'humain. Et voilà, ça peut être... Donc ça, c'est les journées où j'ai de la chance et où je peux faire quelque chose de positif avec eux, ou me balader, ramasser des plantes en leur mettant un sac sur le dos, et on part tous les 3, 4, voire 5, parce que j'ai un chien qui me suit aussi partout.
Oui, je me doute.
Enfin, voilà, c'est toute une activité.
Donc, on est d'accord que c'est H24, parce qu'en plus, j'imagine que t'as pas de week-end non plus. Les chevaux, ils ont pas de...
Alors, bon, moi, comme ils sont quand même en extensif, je peux très bien ne pas passer les voir une journée. Ils vont pas d'accord. En mourir. Il n'y a pas de question létale là-dessus. Mais c'est vrai que c'est des animaux qui sont plutôt sensibles. Et puis, quand on vit avec eux, on n'arrive plus trop à passer... C'est très étrange quand je pars une semaine et que je m'occupe plus d'eux. J'ai l'impression d'être déconnectée de cette relation. En vrai, ils survivent très bien tant qu'ils ont des conditions naturelles chouettes, c'est-à-dire de l'eau à volonté, de l'espace. Mais je suis toujours rassurée de savoir que quelqu'un va les voir tous les jours. Donc effectivement, oui, ça prend beaucoup de place. On ne se dépasse pas comme on veut avec 3 chevaux, un chien et plein de poules.
Et du coup, donc là, ça t'occupe pas mal. Mais toujours dans le domaine équestre, tu as dit que tu étais donc une artiste équestre. Tu faisais la voltige.
Exactement. Alors j'ai fait une formation il y a peut-être entre 3 et 4 ans dans le Nord Aveyron, en Aubrac. Un endroit qui s'appelle les Esprits Sauvages, et j'ai appris là-bas à faire de la voltige et à travailler en liberté avec mon cheval. Et au cours de ces 8 mois de formation, ce qui en est sorti, c'est que mon rêve, c'était de me déplacer, de trouver un moyen d'avoir quelque chose à échanger quand je suis sur la route avec mon cheval et ma roulotte, ou à pied avec des sacs et mes chevaux. Les gens sont très généreux quand on a un cheval. Il faut savoir qu'ils vont nous accueillir, ils vont nous proposer une douche, nous donner à manger. Il y a quelque chose de très nourrissant pour eux. Et du coup, ils vont toujours être dans le don. Et moi, je me sentais un peu presque voleuse.
Redevable, peut-être.
Ça me gênait, en fait, que ce soit que dans un sens. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je pourrais vraiment partager? Bien qu'en fait, jamais personne ne m'a demandé quoi que ce soit. Peut-être parce que j'aime déjà beaucoup partager mon amour du cheval, ma passion. S'il y a des enfants qui ont envie d'apprendre quelque chose avec les chevaux, je vais passer 2 heures avec eux. Enfin, il y a un naturel là-dessus. Mais voilà, j'avais envie. Et puis de me dire aussi que peut-être un jour, je pourrais survivre sur la route en ayant quelque chose à donner. Et j'avais déjà une amie qui était dans le spectacle équestre, mais moi, je me sentais pas trop à la hauteur. Et un jour, elle m'a un peu poussée. Et elle m'a fait appeler les gens de la formation et j'ai été acceptée et j'ai appris du coup un peu de voltige, un peu de travail en liberté, retravailler du théâtre, un peu de chant, tout plein de choses. Et ce qui en est sorti, c'est que j'aimais raconter des histoires avec mon cheval et l'utiliser comme deuxième personnage de scène. Pas comme un outil de performance, que ce soit pour lui ou pour moi, mais plutôt comme un support, une originalité. Par exemple, les gens n'aiment plus écouter des histoires ou des poèmes, c'est pas vraiment leur truc. Par contre, tu viens faire la même chose avec un cheval, bizarrement, les gens viennent s'agglutiner comme des mouches autour de toi et tu peux transmettre ton message, que ce soit un message politique ou un message plus simple ou de la poésie.
Tu penses que sans tes chevaux, les gens s'approcheraient pas ? Ou pas pareil ?
Ils s'approcheraient moins facilement. Disons que là, ça attrape un peu comme les mouches avec le vinaigre ou le sucre. Ça vient très, très vite. Après, maintenant, j'avoue que je commence à compter même sans eux. Et ça va, je m'en sors bien.
Alors, ça, c'était les contes, mais je voulais finir par la voltige. Et du coup, ça t'a permis de faire des spectacles ou non ?
Alors, si, oui, j'ai quelques petits spectacles, mais je ne fais jamais que de la voltige. Déjà parce que mon cheval a maintenant 20 ans et que j'en ai qu'un qui fait de la voltige. Deuxièmement, parce
c'est Tucson, la voltige ?
Oui.
D'accord.
Et deuxièmement, parce que je suis toute seule et que j'ai redéménagé 3 fois depuis que j'ai fini cette formation. Donc, avant d'avoir une structure pour faire les choses bien, on est encore en construction. Mais du coup, j'ai appris à utiliser des petites choses de voltige, pouvoir circuler sur un cheval, passer en dessous, ou juste me mettre debout et déambuler. On a aussi un personnage où on crée un monsieur loyal, donc un personnage qui peut être dans un festival et annoncer les choses, ou faire passer des annonces en public, ou présenter une soirée, et là, on est au top avec mon ami.
Parce que j'ai l'impression, voilà, t'as un côté saltimbank, pardon.
Tout à fait.
Un côté amour des chevaux. J'ai l'impression que l'auto cumulé, ça matche bien, quoi. Enfin,
ça matche complètement bien, oui. Ça crée vraiment une identité. Il faut savoir que le monde du cheval et du spectacle du cheval est un peu bouché, dans la mesure où il y a énormément de gens qui font du spectacle de cheval, mais très peu qui se font payer, et pas beaucoup avec... Il y a eu un temps où il y avait très peu de qualité, ou en tout cas, à mon sens, à moi, une finesse, on va dire, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'exploit, mais plutôt de la sensibilité. Et je pense qu'on arrive à créer ça et que ça marche bien.
Et voltige, parce que bon, j'imagine que, comme tu dis, tu dois faire des prouesses techniques, on va dire, sur ton cheval. T'as pas eu une appréhension au début ? Enfin, je sais pas, ça va être compliqué, non ?
Moi, je pensais même pas que je pourrais...
Vous avez confiance avec le cheval et que du coup, ça passait crème.
Alors, j'avais énormément confiance en mon cheval, mais non, j'avais des bons formateurs.
Armand, tu mets sur un cheval pour faire la voltige, je suis pas sûr, moi.
Surtout que j'avais 37 ans, que j'ai jamais...
Non plus, d'ailleurs, je te rassure.
37 ans, j'ai jamais été sportive. Enfin, c'était mal barré au départ, quand même. Mais non, c'est assez chouette et je pense que ça m'a débloqué les dernières choses qui me manquaient en tant que cavalière. Ou vraiment se rendre compte que oui, c'est une harmonie avec lui, c'est trouver comment on travaille au corps à corps ensemble. Et je pense que oui, ça a fini de me débourrer, moi, avec eux.
Et donc, tu disais tes multi-casquettes, et tu viens de dire aussi que tu faisais des contes. Alors, c'est des contes qui ont vraiment un rapport avec les chevaux ou pas spécialement ?
Alors, au départ, beaucoup avec des chevaux. Après, j'ai eu la chance de travailler dans un parc 1900 en Dordogne. Donc, c'est un parc avec le thème les années 1900, où j'étais cochère. Et comme je ne supporte pas qu'on fasse travailler des chevaux pour rien en plein été quand il fait 45 degrés, j'avais dit d'accord, très bien, je veux bien atteler le matin, par contre l'après-midi quand il fait chaud, hors de question. Je dis par contre, je vais pas glander et juste parler aux gens comme ça, je dis je me propose de raconter des histoires sur la vie de cette époque, sur... Et du coup pendant 6 mois j'ai eu le temps de travailler, qu'est-ce que je pouvais raconter avec mon cheval, j'essayais de trouver des textes sur cette époque-là, ou d'aller raconter des histoires, et on va dire que notre personnage de colporteur d'histoire avec Tucson a débuté comme ça.
Et donc tu t'es produit en public déjà avec tes textes ?
Complètement, oui.
Ça va être chouette par contre. Franchement, ça va être chouette.
Ouais, et puis ça peut être aussi des lectures. Là, par exemple, à Brandonnet, je vais jouer le 18 avril à côté de la mairie de Brandonnet, dans un petit parc. Et l'idée, ce sera de lire des poèmes d'une super poétesse que j'ai rencontrée, qui a une sensibilité de dingue et qui n'est pas morte. Il faut savoir, ça existe, les poètes vivants.
C'est vrai.
Avant, non. Maintenant, oui.
Les poètes maudits, l'avait dit, tu sais.
Et du coup, il y a une dame qui s'appelle Alban Gelée qui fait des textes magnifiques et j'essaye de partager ces textes avec le plus grand nombre. Et du coup, quoi de mieux comme média que mon cheval ? Et du coup, c'est une journée où j'amène mon cheval et je déambule sur lui ou avec lui. Lui, il peut brouter, il peut être là, il peut être actif ou pas, il peut être câlin ou ignoré, ou juste aller venir grignoter les cheveux des gens ou aller essayer de manger sous leurs pieds. Et pendant ce temps-là, je leur donne des textes qui font réfléchir sur la condition animale ou la condition des animaux avec nous, sur le rapport qu'on peut avoir entre eux, ou sur les pratiques ancestrales, le travail du labour avec eux. Qu'est-ce que c'était que de passer une journée avec eux ?
Eh bien, écoute, c'est pas cela. Je vois que oui, t'es vraiment multicasquette. L'émission, donc la première partie de ton émission, tu vois, elle touche à la fin. Je te l'avais dit tout à l'heure que ça passe très très vite. Et nous nous retrouvons bien sûr après pour la prochaine partie où tu pourras nous parler encore de ta passion et surtout mon jeu préféré, le tu préfères. On se retrouve pour la prochaine partie. Merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était votre émission Passionnément Votre, l'émission 100% Passion avec Chris Arnal.